On en parlait en début d'émission. Des organismes communautaires dénoncent le comportement négligent et inapproprié de plusieurs chauffeurs de taxi du transport adapté géré par la Société de transport de Montréal à l'égard de personnes ayant des déficiences intellectuelles ou un trouble du spectre de l'autisme, souvent des enfants. C'est un article paru dans le journal Métro ces derniers jours. On voulait en savoir plus sur la problématique, donc on joint au téléphone Madame Christelle Labrec-Dupuis du Regroupement des usagers du transport adapté de Montréal, le RUTA. Bonjour Madame Labrec-Dupuis.
Bonjour.
Donc, c'est un article qui a paru dans les derniers jours et qui nous dévoile tout de même des faits un peu troublants. C'est quoi le protocole de la STM lorsqu'il y a une plainte concernant le mauvais comportement ou le comportement négligent d'un chauffeur qui atterrit sur le bureau?
En fait, le protocole quand il y a une plainte, je le sais pas là. Je sais que la STM elle traite les plaintes qui sont reçues, vraiment toutes les plaintes là. Mais le protocole comme tel, ça c'est quelque chose d'interne à la STM.
Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est dénoncé beaucoup dans l'article, c'est le fait que il n'y a pas de surveillance. On dit que le transport adapté est un transport de porte à porte, c'est connu, mais c'est aussi un transport de personne responsable à personne responsable, lorsque c'est le cas, par exemple, d'un enfant qui vit avec un TSA ou une déficience intellectuelle. Qu'est-ce qui arrive si un chauffeur arrive à destination avec un enfant et que personne n'est là, la personne responsable, donc, n'est pas présente?
Oui, en fait, la consigne au chauffeur, c'est vraiment de rester sur place. Peu importe qu'il y ait d'autres usagers dans son véhicule qui attendent, il doit rester sur place avec l'usager qui vient porter. Il doit contacter son répartiteur qui, lui, va généralement appeler la STM. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'un chef d'opération de la STM va venir relayer le chauffeur pour attendre avec l'usager pour que le chauffeur puisse continuer sa route.
Et est-ce que c'est fréquent qu'on signale des cas où ça arrive, où on doit dépêcher un agent de la STM pour remplacer le chauffeur, ou est-ce qu'on vous témoigne beaucoup que le protocole que vous venez d'énoncer n'est pas respecté?
Bien, en fait, dans la mesure où les organismes ne sont pas obligés de passer par le RUTA pour faire les plaintes ou les commentaires, on n'en reçoit pas nécessairement souvent, mais c'est quand même quelque chose qui peut revenir de façon régulière.
Et selon vous, qu'est-ce qui fait que ça revient de manière régulière?
C'est une bonne question, ça. Ça peut être tellement de choses. T'sais, si le chauffeur, par exemple, n'a pas bien lu sa feuille de route, admettons, puis qu'il n'a pas vu qu'il fallait laisser la personne avec un responsable, il va laisser la personne là, puis il va s'en aller. Des chauffeurs qui ne veulent pas nécessairement attendre parce qu'ils vont prendre du retard dans leur feuille de route. Ça peut être ce genre de raison-là.
Les chauffeurs de taxi, parce qu'on parle dans le cas qui a été énoncé dans les médias, on parle surtout de chauffeurs de taxi, sachant que la STM, le service de transport adapté, fait beaucoup de sous-traitance avec des compagnies de taxi. C'est notamment 14 fournisseurs qui sont sous contrat actuellement avec la STM pour le transport adapté. En 2015, ça représentait 3,4 millions de déplacements en taxi. C'est un chiffre très important. On sait que les chauffeurs de taxi doivent suivre une formation pour bien travailler avec la clientèle. Est-ce qu'elle est adéquate, cette formation-là?
Bien, adéquate, je pense que oui. C'est quand même une formation de 8 heures. C'est une formation qui peut être aussi modifiée au fil du temps, justement selon les plaintes que la STM reçoit. Il peut y avoir des ajustements faits. Après ça, il y a toute la question de à quel point le chauffeur intègre la formation, comment il va la comprendre, comment il va l'intégrer et l'appliquer. Et nous, on aimerait ça aussi qu'il y ait un rappel de cette formation-là. Ça, c'est peut-être la lacune. Souvent, ils vont prendre la formation une seule fois parce qu'ils sont obligés, puis c'est tout. Mais dans la mesure où, quand il vient le temps de renouveler leur permis de travail de chauffeur, ils doivent montrer qu'ils ont fait l'équivalent de 2 jours de formation, mais que c'est eux qui choisissent les formations qu'ils font. Nous, on aimerait que dans ces formations-là, ceux qui font vraiment du transport adapté soient obligés de faire, une fois de temps en temps, un rafraîchissement de la formation vraiment par rapport au transport adapté.
Mm-hmm. OK, la formation, une forme de formation en suivi, de suivi, finalement, continue.
Oui, exactement.
Et mis à part, bon, les comportements qui sont difficiles à noter, ça va selon les plaintes qui sont reçues et les commentaires qui émanent. Il y a par contre le phénomène des feuilles de route, on en parlait, qui font que parfois le transport va arriver en retard ou même à l'avance de l'heure prévue. Et ça a un incident sur les activités des usagers. Et ça peut même, dans certains cas, engager des frais que les parents, par exemple, des enfants, doivent assumer. S'il y a des professionnels qui doivent faire du temps supplémentaire parce que le transport adapté est en retard, c'est une facture qui s'ajoute pour la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que le RUTA est en mesure de faire pour essayer de réduire ça à l'avenir?
C'est vraiment une question complexe, surtout les retards, parce qu'à la base, il y a des choses qui font qu'il y aura toujours du retard, comme la circulation, comme les intempéries l'hiver.
Ça, et les travaux.
Choses... Oui.
On ne se cachera pas.
Non, les nombreux travaux, ça, c'est des choses qui font que, ben, des retards, il y en aura toujours. Il y a aussi des situations où on peut peut-être essayer de réduire les retards à la source, comme par exemple, il y a justement des chauffeurs qui doivent suivre leur feuille de route comme il faut, puis il y a aussi parfois les usagers eux-mêmes qui peuvent ne pas être prêts à l'heure. Ça engendre quelques minutes de retard sur la feuille de route. Il y a vraiment des sources qui viennent de plusieurs endroits différents. Et si on pouvait avoir un peu une gestion de ces sources différentes-là, probablement que ça pourrait aider dans ces cas-là.
Mais tout de même, est-ce qu'il y a un soutien qui peut être apporté aux parents, par exemple, qui doivent défrayer des frais de plus pour des services de garde ou des professionnels avec lesquels leur enfant doit rester, justement parce qu'on parle de responsabilité à ce moment-là de l'usager?
C'est une bonne question. En fait, on n'a jamais été vraiment... on ne s'est jamais posé cette question-là. Très sincèrement, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait travailler, réfléchir. C'est une bonne piste.
Et mis à part, on parle de feuilles de route toujours. Il y a aussi, on le sait, les feuilles de route peuvent occasionner des retards, en fait, en accumulant les transports. Il y a plusieurs usagers qui se plaignent de la surutilisation des véhicules. Du fait qu'on entasse les gens, que parfois, il y a certaines contraintes. Certains usagers ont des contraintes par rapport à leur fauteuil roulant, comment ils doivent placer leurs jambes, contraintes liées au corps parfois, et oui. Qui n'est pas toujours respectée. Ça peut augmenter l'irritabilité des usagers, mais aussi des chauffeurs. Et donc, peut-être mener à justement ces comportements de négligence-là. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel la STM se penche pour justement faire une meilleure combinaison des usagers lors des feuilles de route?
À ma connaissance, non. Ce que je sais, c'est qu'il existe des règles, dans le fond, qui disent que, par exemple, une personne obèse va prendre une place et demie ou deux places. Donc, il y aura, par exemple, seulement 2 personnes en arrière d'un taxi berline. Mais sinon, c'est pas... La STM dit qu'elle suit les règles. Donc, s'il rentre 3 personnes en arrière d'un taxi berline, ben il va y avoir 3 personnes. Puis, dépendamment de la corpulence, dépendamment de comment des comportements, ben des fois, oui, ça va faire que les personnes sont vraiment pas à l'aise d'être entassées en arrière.
Mais sinon, si on parle en termes de taxi-van, par exemple, où est-ce que les usagers vont parfois rester dans leur fauteuil, ça, c'est un espace déterminé. parfois, on va aller jusqu'à entasser deux fauteuils dans cet espace-là. C'est quand même une problématique qui est fréquemment soulevée par les usagers.
Oui, absolument. Nous aussi, on en entend quand même parler régulièrement. C'est vraiment, selon la STM, c'est vraiment des règles établies qui sont suivies. Puis c'est pas quelque chose qui va tendre à changer dans un court terme.
OK. Et qu'est-ce que... Ça répond vraiment bien à nos questions. Qu'est-ce qu'un article comme celui qui a paru dans le journal Métro ces derniers jours, qu'est-ce que ça vous donne, vous, comme indice sur qu'est-ce qui fonctionne bien, mais qu'est-ce qui fonctionne pas bien à arranger et qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire comme membre actif, finalement, du réseau de transport?
Bien, nous, ça nous donne des leviers pour discuter avec la STM de ces problématiques-là particulièrement. Vraiment, depuis qu'il y a eu les articles vendredi, on a déjà eu des discussions avec la STM par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, nous, vraiment, notre travail, c'est de faire de la concertation. Fait que c'est sûr qu'on va toujours discuter, analyser, continuer à dire à la STM qu'est-ce que c'est les besoins, puis faire en sorte qu'ils travaillent là-dessus puis qu'il y ait des changements par rapport à ça.
Parfait. Un article comme celui-là, ça vous donne des munitions. Merci beaucoup, Christelle Labrecque-Dupuis. Vous êtes agente de concertation et de projet au RUTA Montréal, le regroupement des usagers du transport adapté. Merci d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour nous parler.
Merci beaucoup.